Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Et moi, je suis pour une rénovation large, dont sociale. Le plus important, c'est le titre 1 de la loi qui oblige chaque ville, chaque département, tous les services de l'État, tous les ans, de dire ce qu'ils ont fait pour ces quartiers. Ces quartiers, vous savez, qui ont des chiffres très clairs. Hein. C'est toujours 4 fois plus de chômeurs, 4 fois plus de nationalités, 4 fois plus de problèmes de scolarité. Démocratiquement, avec les majorités et les oppositions, débattent tous les ans de ce qui a été fait, en moyens particuliers financiers, en moyens humains. Nous sommes dans une démocratie. L'omerta qui faisait qu'on ne parlait pas de ça, c'est maintenant terminé.
C'était il y a 20 ans, le ministre délégué à la ville sous Jacques Chirac, Jean-Louis Borloo, dessinait au micro de France Inter, dans l'émission Chroniques Urbaines, les contours de la future agence de rénovation du bâti dans les quartiers populaires, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ces grands ensembles, tristement entrés dans l'actualité au milieu des années 70, au gré des colères de ces jeunes habitants, des fermetures d'usines, du chômage de masse, allaient donc enfin se voir réhabilités. Il y a 20 ans, cette promesse d'horizon ouvert suscite un grand espoir, celui d'un plan Marshall pour les banlieues qui allait forcément améliorer la vie quotidienne de ses habitants. 20 ans plus tard, après 2 programmes de réhabilitation et des dizaines de milliards d'euros mobilisés, des centaines de quartiers sensibles sont rénovés, d'autres en partie détruits. Pour offrir un parcours résidentiel et favoriser la mixité, on construit des copropriétés, y compris en accession sociale. Pourtant, de plus en plus, associatifs et habitants contestent aujourd'hui ces programmes qui ne les associent pas toujours, qui effacent une mémoire collective des lieux et qui détruisent du logement quand l'ampleur de la crise est inédite. Et à quoi bon rénover le bâti si on ne traite pas l'humain aussi? Relégation multiple, chômage, pauvreté, insécurité, malgré ces travaux, les habitants peuvent faire face aux mêmes difficultés. Au lendemain de la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement qui fustige une année noire et de l'annonce de l'assouplissement de la loi SRU par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, première émission d'une série sur le logement social. Cette semaine, quel avenir pour la rénovation urbaine et pour les milliers de grands ensembles encore en souffrance? Bonjour Christine Lelévrier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, membre du laboratoire Laburba de Paris-Est Créteil. Vous avez participé à l'ouvrage La métropole parisienne, une anarchie organisée, sous la direction de Artioli Francesca et Patrick Le Gallès aux presses de Sciences Po. Et on se souvient évidemment de votre participation au livre publié au PUF, À quoi sert la rénovation urbaine? On entendait Jean-Louis Borloo en 2003 dire qu'il était pour une rénovation sociale, globale, large, avec ce débat annuel qui devait rassembler tout le monde autour de ces quartiers. Est-ce que cette promesse a été tenue?
Alors, peut-être que je reviendrai d'abord sur son idée de rénovation sociale, parce qu'il me semble que quand même, ça n'a pas tout à fait été une rénovation sociale, dans la manière dont cela a été mis en œuvre. Il y a plutôt eu une rénovation du bâti, très forte, avec un investissement énorme sur le logement, les aménagements d'espaces publics. La dimension sociale, elle a été d'une part séparée en 2003 du reste de l'action. Et finalement, le bilan quantitatif qui est fait aujourd'hui de la rénovation urbaine est un bilan principalement sur combien de logements on a démolis, combien de logements on a
reconstruits. On est sur du quantitatif et moins sur du qualitatif.
On est sur du quantitatif et on est sur plutôt du bâti et de l'aménagement que des résultats sur l'amélioration de la vie quotidienne des habitants.
Mais parce que cette agence nationale de rénovation urbaine, elle a été pensée pour le bâti à côté. On a créé une autre agence qui est, à force de changement de nom, devenue l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ça veut dire que dès le début, on a eu une politique, hémiplégique sur la question.
On a eu une politique qui, jusqu'en 2014, puisqu'en 2014, les choses ont un peu changé, mais jusqu'en 2014, on a eu une séparation quand même assez forte entre un investissement massif sur le bâti, le physique, l'aménagement, le spatial, et puis une politique de la ville qui a quand même, dont on a vu de plus en plus ses moyens se réduire depuis, et alors aujourd'hui également. Alors, je reviendrai sur le terme de rénovation urbaine, parce que quand même, ça n'était pas neutre à l'époque, et il y a eu beaucoup de critiques sur ce terme qui avait été banni pendant des années des politiques du logement et de l'aménagement, parce que elles avaient entraîné dans l'histoire des déplacements de population. Donc, reprendre ce terme, qui signifie vraiment démolition-reconstruction, c'était aussi lancer l'idée qu'on allait changer complètement le sens de l'action en démolissant, reconstruisant, ce qu'on avait un peu fait, mais pas trop jusque-là, puisqu'on réhabilitait, donc on améliorait les logements et les espaces, mais on avait très peu démoli avant 2003.
Oui, et justement, il faut se souvenir que dans la décennie des 2000, ces images spectaculaires qui faisaient souvent, qui étaient dans les journaux télévisés, de bars explosés avec des habitants, le maire qui venait et qui appuyait sur le bouton, on ne les voit plus, ces images. On sait à quel point ça a été pour certains, pour certaines familles, un traumatisme. Ça veut dire que cette époque de la destruction est aussi révolue ?
Elle n'est pas révolue, mais disons qu'il y a de moins en moins de démolitions, pour des raisons aussi de difficultés de relogement, pour des raisons économiques aussi. Donc, en fait, il y a eu effectivement un effet spectaculaire au démarrage de ces démolitions, parce que, encore une fois, on ne s'attendait pas à ce que cette orientation soit aussi forte. Les démolitions, même si elles ne représentent pas l'essentiel de l'action de l'ANRU, on pourra y revenir, elles sont un caractère symbolique. C'est-à-dire venir dire aux populations on va changer votre quartier, mais pour aussi attirer d'autres populations, puisque c'était ça l'idée. On va vous déplacer, alors qu'elles n'avaient pas spécialement choisi de bouger. Ça a été quand même très, très compliqué et très traumatisant. Et bon, voilà, c'est de toute façon, même si les habitants en tirent éventuellement par la suite des avantages, même s'il y a des raisons qui peuvent expliquer cette démolition, notamment la dégradation des logements, un certain nombre de...
On y reviendra, certains effectivement ne sont pas toujours réhabilitables.
Voilà, donc même malgré ça, cela reste quelque chose de très violent pour les populations qui ne l'ont pas choisi.
Qui ne l'ont pas choisi, et du coup on voit depuis quelques années des contestations... se mettre en œuvre à chaque annonce de progrès, dans la plupart des annonces de rénovation urbaine. Alors, direction Roubaix, le quartier de l'Almagar, c'est un quartier populaire, un quartier qui est issu d'une lutte urbaine emblématique dans les années 70-80. L'Alma est une référence en matière d'urbanisme, de participation citoyenne et de politique de la ville, et sa conception a été pensée à l'époque avec les habitants. Elle a été saluée par plusieurs prix internationaux. Ici, le projet de rénovation urbaine qui vise à détruire 486 logements et en réhabiliter 390 rencontre une très forte opposition, à tel point que fin novembre dernier, un mur de 2,50 m de haut a été érigé autour des bâtiments promis à la démolition. Reportage de Lucas Rousseau.
Jeunes comme anciens du quartier, ils étaient nombreux fin décembre à exprimer leur opposition à la démolition d'une partie de l'Alma discutée lors du conseil municipal de la ville de Roubaix. Une intervention pas tout à fait du goût du maire de la ville, Guillaume Delbar, fervent défenseur du projet.
Tout le monde n'est pas d'accord, c'est le jeu, mais oui, trois fois oui, nous assumons à 200% ce programme de rénovation urbaine, parce que y compris les gens qui se font entendre aujourd'hui nous disaient qu'ils étaient d'accord à 80 ou 90% avec le projet. Madame Pamar, le projet n'existe. C'est pas moi qui l'ai décidé. Je suis pas urbaniste, je suis pas architecte, j'ai jamais dit que je l'étais.
Cela fait plus d'un an maintenant que des habitants ont créé un collectif nommé Non à la démolition dans le quartier de l'Almagar. Construit au début des années 1980, le quartier de l'Alma est né d'une lutte urbaine victorieuse. Alors que la mairie projette à l'époque déjà de démolir leur maison ouvrière, les habitants gagnent leur bras de fer et obtiennent la création d'un quartier à leur image.
Nous pouvons dire bien fort que nous avons gagné. Parce que nous avons refusé de subir. Nous pouvons dire que les habitants ont su imposer la prise en considération de leur point de vue sur l'urbanisme. L'avenir, nous voulons continuer à le construire ensemble, élus, techniciens, habitants. C'est peut-être cela, vivre mieux, vivre et travailler autrement.
Aujourd'hui, personne ne nie que l'Almagar a besoin d'un plan, mais les habitants, attachés à leur quartier, réclament une rénovation plutôt qu'une démolition. Haroun vit ici depuis 35 ans. Il s'inquiète de voir des familles forcées à quitter le quartier et regrette le manque de concertation de la part de la municipalité.
Et ici, c'est convivial, on se connaît tous, c'est une grande famille, comme je le dis tout le temps. Vous savez, avant, ici, les jeunes, les enfants, ils jouaient ici. Moi, j'habitais l'appartement là-bas. J'avais un duplex, hein. J'habitais là-bas, je servais mes enfants de la fenêtre. La démolition, ici, elle a affecté tout le monde. On a des gens qui ne veulent pas partir d'ici, qui veulent qu'on enlève ces barreaux, qu'elles soient comme avant, hein, conviviales, que ce soit du côté des élus, que ce soit du côté des bailleurs sociaux. C'est la lâcheté totale. Ils ne sont même pas capables de venir parler avec les gens convenablement. Il était temps qu'on bouge, en mode qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord.
Fin novembre, un mur est apparu pour empêcher les habitants d'accéder au chantier. Une marque de mépris de plus de la part des autorités pour Florian Vertrieste, porte-parole du collectif d'habitants.
Ah, la répression est incroyable. Concrètement, au sein du quartier, c'est les drones, la présence policière 24 heures sur 24. Maintenant, ils nous ont mis des murs de 3 mètres. C'est, comme je le disais, moi, la première fois que j'ai vu ces murs, je prenais la route pour la gare pour aller à Paris. Et les larmes, elles sont montées parce que c'était un mépris total. C'est le mépris qui continue. Et en voyant ces murs, je me suis dit, en fait, ça me fait penser à un vieux film que je regardais quand j'étais jeune, qu'on appelait Banlieue 13. Non seulement on n'a pas été consulté sur ce projet, il n'y a pas eu de possibilité de co-construire, on n'a pas eu notre place dans le débat. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas de dialogue crée des frustrations et un rapport de force qui se crée. Et aujourd'hui, on fait des réunions au sein du quartier à plus de 200 personnes. Il y a des réunions qu'on a fait où on était 250. On a ramené plus de 300 professionnels de l'Europe entière, des architectes, des urbanistes, des sociologues, qui sont totalement en adéquation avec nous. Et c'est clairement ça que moi j'aimerais dire à monsieur le maire, c'est on existe, on a des revendications, on sera peut-être en désaccord sur des points, mais je pense que le bon sens et le dialogue doivent reprendre le dessus.
Voilà pour ce reportage de Lucas Roxo. J'ajoute que les habitants de l'Almagar se sont introduits sur le chantier ce mercredi pour un goûter festif. Ils étaient une centaine. Une opération de police les a délogés et plusieurs membres du collectif ont été placés en garde à vue. Ils ont depuis été relâchés et la mairie contactée se refuse à tout commentaire sur cette opération. Christine Lévrier, on a entendu le maire Guillaume Delbar qui dit c'est pas moi qui l'ai décidé, alors que la construction et enfin les conditions de cette rénovation, c'est le maire hein, qui prend ces décisions là. Et on entend Florent Vertrieste qui nous dit à un moment on est là, on existe et il va bien falloir qu'on parle. Cette co-construction, ces échanges, ils sont prévus pourtant dans le cadre de ces rénovations urbaines.
Alors, de ce point de vue, le nouveau programme qui a été mis en place en 2014 a un tout petit peu amélioré la situation, puisque les habitants doivent participer au comité de pilotage, que les habitants doivent effectivement, sont censés co-construire. Il y a des conseils citoyens, il y a un certain nombre d'organismes qui ont été mis en place, de structures qui ont été mis en place plutôt que d'organismes, mais qui n'existaient pas avant. Donc il y a des conditions.
Sur le premier programme 2004-2014, ces structures n'existaient pas.
Non.
Et on a renforcé pour le deuxième programme 2014-2024 ces structures de co-construction avec les habitants. Mais
oui.
Ça ne marche pas toujours. Donc.
Oui, non, parce que la participation, c'est quelque chose qui est au cœur de la politique de la ville, mais qui est en permanence l'objet de critiques, parce qu'on ne va jamais très loin dans cette participation. On est beaucoup souvent dans de l'information, dans de la concertation, mais pas dans un projet qui est coproduit ou co-construit avec les habitants. Alors, ensuite, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'il y a à la fois l'expression de non-considération. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que les habitants ont l'impression de ne pas être suffisamment considérés comme des acteurs à part entière qui peuvent avoir un point de vue. Voilà. Alors après, sur la résistance, je pense qu'on entre un peu dans une nouvelle phase parce que pendant toute la durée du premier programme, il y a eu très très peu de résistance. C'était même surprenant un peu. Peu de contestation parce que les gens étaient dans l'incertitude du devenir personnel qui les attendait, notamment ceux qui devaient être relogés quelque part. Donc, aujourd'hui, il y a à la fois des résistances même plus passives, c'est-à-dire des gens qui refusent de bouger parce qu'ils savent que ils ne vont pas forcément être expulsés, même si ils ne répondent pas tout de suite à la proposition qui leur est faite de relogement. Donc on voit de plus en plus de gens qui... Et dans le même temps, on voit aussi de plus en plus de gens qui éventuellement s'aperçoivent qu'ils peuvent sortir du quartier. Donc c'est pas non plus...
C'est beaucoup aussi... plus nuancé, c'est ça que vous nous dites.
Oui.
Mais après, pour certains, on voit qu'il y a une forme d'expertise qui s'est construite au fil de ces 20 années de programme. Et qu'aujourd'hui, vous avez des collectifs citoyens qui, entre eux, en fait, se nourrissent aussi d'expériences. Un collectif, un supra-collectif s'est monté, Stop aux démolitions en rue, qui réunit près de 700 collectifs ou individus qui sont signataires sur toute la France et qui posent la nécessité en fait de revoir ces méthodes. D'ailleurs, ils organisent un rassemblement à la veille du colloque dédié aux 20 ans de l'ANRU ce 7 février prochain. Ils demandent un moratoire sur des milliers de destructions de logements prévues. Alors, on pense à la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, au Mirail à Toulouse, à l'Almagar évidemment. Ça dit quelque chose aussi d'une forme de démocratisation de cette question autour du logement social. Il y a une forme d'expertise des habitants.
Il y a aussi tout un soutien qui s'est mis en place au cours de ces 20 dernières années.
De collectifs d'architectes, d'urbanistes.
L'association Appui qui essaye aussi de travailler avec les habitants à des contre-projets qui peuvent, que les habitants ne sont pas en mesure forcément de produire. Faut voir que la légitimité à intervenir sur des projets aussi complexes que ceux de l'ANRU et de porter une parole un peu collective, c'est très compliqué dans ces quartiers. D'autant que tout est fait pour que finalement les gens soient, enfin que le traitement de leur situation soit plutôt individuel. Donc c'est l'organisation collective et si elle n'est pas soutenue par un certain nombre de collectifs,
si elle n'est pas soutenue par des collectifs avec une expertise, parce qu'effectivement c'est une politique, cette rénovation urbaine, cette politique du bâti, politique du logement, politique de la ville. Qui est parfois absolument
très kafkaïenne. Très compliqué. Et puis, je pense que il n'y a pas forcément de bonne communication non plus avec les habitants sur ce qui est attendu. Enfin, c'est très difficile de comprendre ce qui peut être attendu de cette démolition, alors que dans certains endroits, on démolit parce que les logements sont dégradés ou parce que il y a pas besoin de dans des secteurs détendus. C'est très différent d'un territoire à l'autre. Dans certains secteurs détendus, il n'y a pas besoin de logements sociaux, alors que dans d'autres, on a un très grand besoin de logement social. Donc la question se pose aussi différemment selon les territoires.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut vraiment penser territorialement, typiquement, la pénurie de logements sociaux sur la métropole de Lille, dont fait partie Roubaix, est de 70 000 selon le programme local de l'habitat. Cela rend déjà difficile le relogement des habitants de l'Almagar. Et c'est une réalité sur tout le territoire où 2,4 millions de ménages se retrouvent désormais en attente d'un logement social. Donc, selon qu'on est en zone tendue ou pas, ces questions de destruction, de réhabilitation ne se posent pas de la même manière.
Non, et la question de la mixité non plus, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire plus facilement dans ces quartiers détendus, en zone détendue, on peut aussi plus facilement produire du logement social moins cher, parce que la question elle est aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire si on démolit et derrière il y a incapacité des acteurs locaux à produire du logement abordable pour des populations à bas revenus, on ne résout absolument pas la question que pose la fondation, le rapport de la fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Donc c'est alors que dans certains secteurs détendus, on peut arriver à produire du logement pour des familles pas trop cher.
France Culture, sous les radars, Nora Amadi.
Anne-Claire Mialot est la directrice générale de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, missionnée par les ministres Christophe Béchu à la transition écologique, Patrice Vergriet au logement, Agresti Roubache à la ville, à la citoyenneté. Depuis, le gouvernement a changé. Elle travaille avec deux autres acteurs à une mission de préfiguration du futur du renouvellement urbain. Nous sommes revenus avec elle sur les contestations des collectifs d'habitants, comme à l'Almagar, et sur les défis de ces grands projets à l'heure des transitions.
Les projets de renouvellement urbain, ils sont portés par les maires. Après, les projets sont financés par l'agence qui conseille, accompagne les porteurs de projets, qui peut leur conseiller de retenir tel ou tel réaménagement, on va dire, des quartiers, mais à la fin, les projets sont portés par les maires et les projets, ils sont aussi mis en concertation par les maires qui sont démocratiquement élus. Il y a effectivement un certain nombre de sites sur lesquels il y a des contestations de programmes de renouvellement urbain. De ce que nous remontent les associations, on est entre 10 et 15 sites sur lesquels il y a des problématiques lourdes, comme l'Almagar dont vous venez de parler. Sur 450 quartiers en renouvellement urbain, 10 ou 15 sites, c'est beaucoup et c'est trop, je suis d'accord, mais ce n'est pas non plus tous les programmes de renouvellement urbain qui font face à des contestations. Et on va continuer à travailler avec l'ensemble des parties prenantes de ces enjeux de concertation pour voir comment on peut mieux outiller les collectivités, mieux garantir le fait que les habitants soient acteurs des projets de renouvellement urbain. L'ANRU a comme objectif la mixité sociale. Et dans les quartiers dans lesquels il y a 90% de logements sociaux, l'objectif du programme, c'est de favoriser la diversification et de faire en sorte qu'il y ait moins de logements sociaux et qu'il y ait d'autres propositions de logement, de l'accession à la propriété, d'accession sociale à la propriété, du locatif libre, etc. À la fin, sur les zones tendues, donc sur les zones sur lesquelles il y a besoin beaucoup de logements sociaux, il n'y a pas de baisse du nombre de logements sociaux globalement sur le territoire. Parce que chaque logement social qui est financé en démolition va être financé en reconstruction dans un autre quartier. Parler de gentrification, honnêtement, allons ensemble dans les quartiers, allons voir un certain nombre de quartiers sur lesquels on a eu des projets de renouvellement urbain. Je ne pense pas que sur la plupart des quartiers, on puisse parler de gentrification. Après, on a un sujet aujourd'hui qui est encore plus prégnant que par le passé, c'est la question effectivement du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique et de la nécessité de réfléchir à la façon dont on peut refaire la ville sur la ville sans consommer des terres arables, sans atteindre la biodiversité et en favorisant des villes qui soient agréables et à vivre pour nos concitoyens. Et donc refaire la ville sur la ville, ça va être un élément encore plus fort pour demain. Après, dire qu'on ne démolira plus, je pense qu'il faut être clair. Je pense que ce n'est pas possible. Dans les faits, parfois on a besoin de démolir un bâtiment parce qu'il est obsolète et qu'il n'est pas réhabilitable, parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas réhabilitables. Il y a des sujets de dysfonctionnement urbain. On a parfois des quartiers sur lesquels des grandes barres, des grandes tours qui ont été mises, et parfois on peut se poser la question de maintenir un bâtiment qui, dans l'architecture et l'organisation urbaine de l'espace, ne permet pas la reconnexion d'un quartier avec un autre. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas de dogme en la matière. Ce qui est certain, c'est que le sens de l'histoire est probablement qu'on démolira moins parce qu'on prendra en compte une pluralité d'enjeux, ce que je viens de dire, mais aussi les enjeux de décarbonation, les enjeux d'économie de matériaux, etc., etc. Au-delà du renouvellement urbain, il y a besoin d'autres politiques publiques. Je vous réponds oui, bien sûr. Je prends par exemple cet exemple. L'ANRU peut financer une très belle école qui correspondra aux besoins du quartier. S'il n'y a pas un projet éducatif et des professeurs dans cette école, ça ne suffira pas. Donc, bien évidemment, la politique de renouvellement urbain est un élément essentiel pour améliorer la vie des habitants des quartiers, mais elle est complémentaire d'autres politiques publiques qui doivent se déployer dans les quartiers, que ce soit les politiques de sûreté et les politiques, bien évidemment, d'éducation, d'accès à l'emploi, de santé. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec nos collègues de l'ANCT, vous le savez, pour faire en sorte que nous ayons une convergence d'intervention sur les quartiers pour permettre aux habitants d'avoir des conditions de vie meilleures.
Christine Lévrier, Anne-Claire Mialot, donc directrice générale de l'ANRU, réaffirme cette nécessité de mixité, l'objectif de création de parcours résidentiels en créant de l'accession sociale à la propriété, de la propriété privée classique. Les habitants, eux, parlent souvent de gentrification, notamment quand on est dans des zones tendues à Lyon, à Nantes ou par exemple dans le pourtour de Paris. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'on a réussi déjà peut-être à créer cette forme de mixité ?
Alors, si l'on regarde les évolutions en termes d'écart socio-économique entre ces quartiers et le reste de la ville, c'est clairement non. D'une manière générale, en tout cas. Hein ? On a plutôt une pauvreté, une concentration de pauvreté qui continue et des écarts qui ne diminuent pas. Donc c'est d'une certaine manière une forme d'échec de la mixité sociale qui était déjà là tout au long de la politique de la ville depuis 40 ans. C'est quelque chose qui ne se réduit pas à la concentration de pauvreté. Alors après, il y a des explications qu'on peut donner à ça. Hein. C'est que la première, c'est que quand on regarde ce qui se passe réellement dans les opérations de rénovation urbaine, les populations qui sont relogées, elles sont relogées là où il y a du logement abordable, parce qu'elles ont très très peu de revenus. Et donc le logement abordable, il faut être clair, il est principalement aujourd'hui dans les sites qui sont en rénovation urbaine. Donc il y a une sorte d'effet structurant qui fait que...
On ne peut pas les reloger ailleurs parce que dans ces logements dits très sociaux, dans ces des PLAI, si on doit utiliser les acronymes, il n'en existe que là.
Il n'en existe pas que là, mais disons que déjà ces PLAI sont plus chers que les loyers des logements anciens. Donc il y a une logique qui amène à une sorte de reconcentration à la fois dans les quartiers de la politique de la ville et puis dans les fractions les plus anciennes de ces quartiers.
Mmh. Donc on est loin, selon vous, de ce que peuvent dire les habitants, la rénovation urbaine entraînera une forme de gentrification?
Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que ce qu'on voit, on peut répondre de deux manières. Il y a des endroits où il y a une gentrification. Mais ces endroits où il y a une gentrification sont des endroits qui déjà, de toute façon, sont dans une logique de valorisation immobilière liée au prix des logements, au prix des terrains. À Paris, on voit effectivement, même dans les quartiers qui sont aujourd'hui concernés par la politique de la ville, où on démolit très peu, hein, ben, on voit une évolution socio-économique qui va plutôt vers une réduction de la concentration de la pauvreté. Mais on sait très bien que ce n'est pas forcément lié à la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est quand même très peu de choses par rapport au processus de d'évolution des marchés. Donc, ailleurs, à la Courneuve, on constate qu'il y a plutôt une poursuite de la paupérisation. Et puis, dans d'autres grands ensembles, on va avoir une sorte de micro-fragmentation interne. C'est-à-dire qu'on va avoir des endroits qui vont être valorisés. Donc, on pourrait presque parler, c'est pas de la micro-gentrification, parce que on est quand même sur des ménages salariés qui n'ont pas des revenus. C'est pas des classes moyennes qui viennent. Hein. Sont beaucoup des habitants du logement social, du quartier, qui accèdent à la propriété. Donc, bon, mais on va voir quand même que les programmes les plus attractifs vont se mettre aux franges du quartier, tandis que il va y avoir reconcentration des plus pauvres dans les logements anciens, et puis au milieu un mélange de plutôt d'accession aidée, de choses comme ça. Mmh. Donc en fait, il y a une micro-fragmentation dans les plus grands ensembles. Et des quartiers qui peuvent se retrouver finalement raccrochés à des zones centrales ou à des zones plus attractives autour, comme c'est le cas par exemple sur certains ensembles de Nantes, où finalement on a un parc qui va séparer un bout du quartier et qui va le rattacher à un espace plus valorisé. Mmh. Donc, mais parler de gentrification sur l'ensemble des opérations de rénovation urbaine, je pense que
ça dépend véritablement de où s'inscrit effectivement cette rénovation. Mais on a entendu Gabriel Attal mardi dernier, lors de son discours de politique générale, annoncer un assouplissement de la loi SRU qui oblige une partie des communes à avoir 25% de logement social en intégrant dans ce calcul les logements dits intermédiaires. Les militants associatifs sur la question du logement poussent des cris d'orfraie et parlent d'un enterrement première classe. Mais dans le cadre justement de cette nécessité de mixité, est-ce que ça ne peut pas être un chemin ?
Alors moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense que c'est vraiment... La SRU a été, à un moment donné, très importante parce qu'elle a sorti justement l'action publique de l'idée qu'il fallait faire de la mixité en cherchant à déconcentrer la pauvreté dans les quartiers populaires. Donc là, on est dans l'inverse. On va essayer de produire du logement social dans des espaces très valorisés. Et donc ça, c'est symboliquement, c'est très fort et c'est une autre manière de concevoir les choses. Mais à condition que le logement qui est produit dans ces villes soit un vrai logement social. Si on commence à intégrer dans le comptage des logements intermédiaires où les loyers sont beaucoup plus élevés et où ça peut concerner des classes moyennes, on est dans une stratégie pour les classes moyennes.
On est dans une stratégie pour les classes moyennes. Merci Christine Le Lévrier de nous avoir éclairé sur ces questions. La semaine prochaine, on continue et cette fois-ci, on se posera la question de la patrimonialisation du logement social au travers peut-être un musée. Merci en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de Radio France et sur l'application. Merci à Léa Capuano qui l'a préparée, à June Loper qui l'a réalisée, à la technique, c'était Dimitri Paz.